Donc oui, nous continuons cette étude, pourquoi je crois, et nous étions en train de voir la raison, une autre raison hein, de croire en la Bible et en son message, c'est par rapport à l'exactitude historique que nous pouvons trouver dans la Bible. Et comme je l'ai déjà dit la dernière fois, bon, tous ces arguments-là ne sont pas des arguments, on va dire, qui vont être l'argument avec le grand A, hein, qui va convaincre les gens. Mais c'est en prenant tous ces différents éléments que nous avons concernant la parole de Dieu, concernant les événements qui se sont accomplis après que des prophéties aient été faites, etc. Et le fait que, il y ait cette exactitude historique, pour nous, c'est aussi un appui par rapport à la confiance que l'on peut avoir dans ce qui nous a été transmis. D'accord? C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont pris soin de donner beaucoup de détails sur, ben, comme on l'avait vu avec Luc, avec son environnement, le fait qu'il ait pu détailler tout ce qu'il avait pu voir au cours de ses voyages avec l'apôtre Paul, et que bon, ça montrait que Luc, voilà, était présent. Il a vu ces choses-là, il a été témoin de ces choses-là, et donc on avait vu hein, ces différents archéologues qui ont parlé concernant la Bible, notamment Nelson Gluck qui a dit qu'aucune découverte archéologique n'avait jamais contredit la Bible. Et c'est vrai que l'archéologie apporte énormément d'informations et d'éléments qui appuient hein, les récits qui se trouvent dans la Bible comme étant des récits qui se sont bel et bien produits. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes, en lisant la Bible, disent, bah, parce que c'est un livre religieux, spirituel, qui parle de Dieu, on ne peut pas faire confiance à tout ce qui est dit dedans. Et bah, on voit que bah non, l'histoire, elle est bien présente dans les Écritures, elle est présente dans l'archéologie. Et moi, je vous encourage, hein, vous pouvez trouver sur Internet des sites d'archéologie biblique. Hein, avec des articles concernant les découvertes qui ont été faites en Israël et l'impact que ça peut avoir également hein, sur la vie en Christ hein, et la foi. Et donc, on s'était arrêté dans vos notes, c'était le petit point 3, hein, de nombreuses donc, découvertes archéologiques, page 186, parce que c'est vrai que moi j'ai des. Moi, j'ai plus de notes, donc j'ai plus de pages, et moi, je suis à page 256. Hein. Donc, ça vous aiderait pas si je vous disais ça. Mais donc, petit point 3, qui, donc, au sujet des nombreuses découvertes archéologiques qui ont confirmé donc, les événements et les personnages qui sont mentionnés dans la Bible. Et c'est vrai que l'archéologie a fourni à de nombreuses reprises des preuves tangibles de ce que la Bible apporte dans ses écrits. Par exemple, l'invasion d'Israël par l'Égypte, que l'on voit dans 1 Roi 14-25, l'archéologie a prouvé cela. Le siège assyrien de Lachish, dans 2 Rois chapitre 18 et 19, là aussi, hein, l'archéologie a prouvé cela. Que ce soit différentes choses, hein, comme les différentes relations commerciales qui existaient entre Israël et d'autres pays, ou la conquête babylonienne de Jérusalem, toutes ces choses-là, que nous voyons dans les Écritures, l'archéologie a montré que ces événements se sont bien produits. Et que même à travers l'histoire, on va dire les critiques modernes de la Bible par rapport aux récits historiques qui sont relatés dans les Écritures, beaucoup ont toujours cherché, ah mais ça n'a pas existé, on n'a aucune preuve de ça, ça c'est pas possible. Et on va voir que différentes découvertes archéologiques ont su montrer le contraire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé les preuves qu'il faut totalement tout rejeter. Parce qu'on a déjà tellement d'autres éléments dans les Écritures qui sont prouvés par l'archéologie et par l'histoire, que même ceux qu'on ne connaît pas ou on n'a pas de traces, ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit. Seulement, voilà, parfois on n'a pas encore trouvé hein, la preuve archéologique de cela, mais ben, dans l'histoire de l'archéologie biblique, eh bien, il y a eu plusieurs découvertes qui ont aidé à démontrer que ben, on ne peut pas juste s'arrêter à on n'a pas de preuves, ce n'est pas possible, parce que les preuves sont venues par la suite. Alors, on peut penser, on a déjà parlé hein, des manuscrits de la Mer Morte, mais on va voir également d'autres découvertes comme l'inscription de Tel Dan ou l'ossuaire de Caïphe ou encore d'autres découvertes archéologiques qui sont fort intéressantes et que on va voir en quoi elles sont aussi importantes pour nous. Prenons par exemple la stèle de Tel Dan. Alors cette stèle, c'est une tablette de pierre qui contient une inscription. Et cette inscription, c'est la première référence que l'on a à la dynastie davidique en dehors de la Bible. Ça, c'était aussi une des choses, souvent, que les critiques de la Bible apportaient comme argument, c'est que le roi David n'a jamais existé. Parce qu'on ne trouve aucune trace historique, aucune preuve archéologique du roi David. Pendant des années, c'était le cas, hein, jusqu'à ce que, voilà, cette stèle qui a été découverte, hein, c'est une stèle qui a été érigée par Hazael, roi d'Aram, qui est l'actuelle Syrie, et dessus, il y a une inscription donc, qui fait référence à une victoire militaire et qui correspond eh bien, à ce que nous retrouvons dans 2 Chroniques, au chapitre 22. Et donc, ça, c'est une preuve hein, qui montre que bah, ce qui a écrit dans l'Ancien Testament, par rapport à l'histoire, hein, c'est l'histoire avec un grand H, comme on le dit, eh bien, ce sont des événements qui se sont bien déroulés. Et donc, cette inscription qui date du 9e siècle avant Jésus-Christ, hein, nous donne justement une datation précise de la dynastie de David et aussi donc confirme l'existence que David a bel et bien régné et existé. Mais c'est la seule référence. C'est la seule référence en dehors de la Bible que nous avons du roi David. Alors même aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de choses sur le plan historique où on n'a pas énormément de preuves, mais on ne remet pas en doute forcément que un tel ou un tel ait existé, parce que on a des inscriptions, on a des choses que l'on trouve dans l'archéologie, hein, qui amènent à cette conclusion concernant ces personnes. L'ossuaire de Caïphe est un autre exemple. Un ossuaire, c'est une boîte. Hein. C'est une boîte qui est soit en pierre, soit en poterie, hein, dans laquelle on enterre les restes d'une personne. Et c'est comme un peu un cercueil, hein, si vous voulez. Et l'ossuaire de Caïphe porte une inscription intéressante. Et cette inscription, c'est Yosef Bar Kapha. Hein, et elle est datée de la période du Second Temple. Et alors, ce Yosef, hein, Joseph, était en fait le fils de Caïphe. Le Caïphe que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Hein, cela confirme qu'il y avait bien donc un grand prêtre à l'époque de Jésus, que son nom était Caïphe, comme les Écritures nous le disent, et Caïphe était donc le prêtre qui a présidé au procès de Jésus, comme on le voit dans Matthieu chapitre 26. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle l'ostracon de la maison de Dieu. Hein, bon, les ostracas, ce sont des écritures sur poterie. Alors, dans l'archéologie, on trouve plein de poteries, des morceaux de poterie avec des inscriptions, avec des choses écrites. Parfois, même l'archéologie a trouvé une liste de courses hein, sur des petites tablettes d'argile, des choses comme ça. Mais on en trouve couramment hein, lors de fouilles archéologiques. Et celui-ci a été découvert donc à Arad, qui est une ville cananéenne du Négev. Et on a trouvé là donc plus de 100 pièces d'ostraca qui ont été datées du début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et on y trouve donc des références au temple et au nom des personnes qui sont mentionnées dans les Écritures, hein, des personnes importantes. Et ça permet aussi non seulement de dater hein, le temple, mais aussi de vérifier l'existence des personnes qui sont citées dans le texte biblique. Donc, on a le texte biblique qui parle du temple, de sa construction, qui parle des personnes qui ont participé à cela. Et en archéologie, on a retrouvé donc des poteries avec des inscriptions qui mentionnent donc la construction du temple, qui mentionnent les personnes qui ont participé. Une autre découverte, c'est l'inscription de Pilate. Et alors, cette tablette de pierre a été trouvée à Césarée, sur la côte méditerranéenne. Et c'est une tablette qui avait été donc retrouvée dans le théâtre à Césarée et qui porte une inscription qui mentionne donc le nom d'abord de Ponce Pilate, qui était donc il y avait le procurateur de Judée, hein, et puis le Tibérium. Et le Tibérium, hein, c'était un édifice qui avait été construit en l'honneur de l'empereur Tibère par Pilate. Donc, ces deux personnages historiques, ce sont des personnages qui sont mentionnés dans les Écritures. Et là encore, on peut remercier, hein, ces auteurs que Dieu a inspirés et qui ont apporté ces mentions spécifiques par rapport à la naissance de Christ, par rapport à ceux qui dirigeaient pendant la vie de Christ. Et de nombreux écrits, donc, ont été écrits pour discréditer, hein, encore une fois, le récit de la Bible concernant l'existence même de Pilate. Et cette tablette montre clairement, hein, que Pilate a existé et qu'il était, hein, préfet de Judée. Et on peut, grâce à ces découvertes-là, donc vérifier, hein, ce que les Écritures disent. Et on sait qu'il s'agissait donc d'une personne qui a vécu à l'époque de Jésus, exactement comme il est écrit dans le récit biblique. Donc, là encore une fois, les découvertes archéologiques appuient le récit historique de la Bible, de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Un autre exemple aussi, hein, je parlais de ceux qui attaquent l'historicité des Écritures. Pendant longtemps, hein, les détracteurs ont critiqué la Bible par rapport aux Hittites. Et bien que c'est un peuple qui est très peu connu, cette nation hittite, elle a bien existé et elle a joué un rôle important dans l'histoire de l'Ancien Testament et qui a depuis contribué aussi à vérifier l'exactitude historique de la Bible. Bon, les Hittites, c'est un peuple qui est mentionné une bonne cinquantaine de fois dans les Écritures. Hein, ce sont les descendants de Heth, hein, le fils de Canaan, hein, arrière-petit-fils de Noé, hein, dans Genèse chapitre 10, verset 15, on voit cela. Et les Hittites étaient un peuple qui a régné sur la Syrie, sur la Turquie orientale, qui ont eu des conflits notamment avec l'Égypte, avec Babylone. Et on a retrouvé donc des écrits babyloniens, mais également assyriens, qui font donc référence à cela et à Israël. Et ils parlent donc du pays de Hatti. Josué, chapitre 1, verset 4, inclut même ce territoire, hein, dans la grande partie de la terre promise pour Israël. Donc les Hittites, donc pendant de nombreuses années, les archéologues, les historiens, n'ont rien su au sujet de ce peuple-là. Et donc, pour beaucoup, la conclusion, c'était que ben, c'est un truc complètement inventé par la Bible. C'est un peuple qui n'existe pas. Et donc, les critiques de la Bible ont considéré les Hittites comme une preuve, hein, de la mythologie, entre guillemets, contenue dans la Bible. Cependant, les archéologues ont fini par découvrir beaucoup de choses, comme on l'a vu, mais à partir de 1876, ils ont fait beaucoup de découvertes qui ont prouvé l'existence des Hittites comme étant un peuple puissant, hein, et ça, encore une fois, rajoute à la conviction que nous avons concernant la Bible comme étant historiquement fiable. Une autre découverte, c'est celle du pavé. Hein, et le pavé, c'est le lieu du procès, hein, du Seigneur Jésus-Christ, hein, devant Pilate, qu'on vient de mentionner il y a quelques instants. Pendant longtemps, ce lieu a été même considéré comme un mythe, comme n'existant pas, parce qu'on n'y retrouvait pas de traces. Et ce lieu a finalement été découvert. Alors, il faut se rappeler aussi que on avait parlé ça il y a quelques temps de cela, concernant la destruction de Jérusalem par Tite, qu'il avait vraiment fait en sorte que voilà, toute la ville, tout, hein, soit vraiment ravagé, détruit, hein, qu'il ne reste quasiment rien de la ville. Mais lorsque Tite a détruit Jérusalem, on sait qu'il avait construit donc des sortes de baraquements qu'il avait, une fois abandonnés, hein, qui sont effondrés, d'autres bâtisses, hein, qui se sont élevées dessus, hein, lorsqu'il a fait le siège de la ville. Mais les archéologues, donc en creusant, hein, plus profondément, ils ont finit par découvrir ce lieu hein, de la, du procès de Jésus-Christ qui s'appelle le pavé. Et puis, pour finir ce soir, nous avons également bien la piscine de Bethesda. Et alors, la piscine de Bethesda, bon, on en lit au sujet hein, dans les évangiles. Hein, c'est ce lieu qui est mentionné dans Jean chapitre 5 comme étant l'endroit où Jésus a guéri un invalide. Là aussi, pendant longtemps, parce qu'il n'y avait aucune preuve de ce lieu dans la cartographie historique du judaïsme, c'était considéré comme un mythe. Et à ce moment-là, hein, comme il n'y avait pas de preuve de ce que ce lieu était existé, encore une fois, on utilisait ça comme un argument pour dire, voyez, la Bible n'est pas historiquement fiable, on ne peut pas se fier à cela. Jusqu'à ce que, ben, en 1888, elle fut découverte par des archéologues hein, près de l'église de Sainte-Anne. Alors, toutes ces découvertes sont certes intéressantes. Hein, et puis, il y a des gens qui sont passionnés par l'archéologie. Hein, Philippe, il peut se rappeler de notre prof d'archéologie biblique qui était très passionné, Damaris aussi l'a eu, par l'archéologie. Et il y avait des choses intéressantes. Hein, mais. Faut le dire, hein, l'archéologie, c'est pas forcément quelque chose qui intéresse tout le monde. Mais même d'un point de vue pédagogique, hein, ça peut être intéressant. Mais ce qu'on veut souligner, et c'est là bon, pourquoi l'archéologie biblique est importante, c'est parce que toutes ces découvertes valident l'exactitude historique de la Bible. Et ça donne un texte qui est cohérent. Okay? Alors, l'argument que la Bible est un document historique fiable. Encore une fois, ça ne veut pas dire que voilà, ça c'est le grand argument que tout le monde va entendre ça et puis ils vont croire et se tourner vers Christ. Mais l'idée c'est que lorsqu'on peut vérifier les affirmations que nous trouvons dans les Écritures, que ce soit en matière d'histoire ou autre chose, mais surtout grâce à des supports profane, c'est-à-dire en dehors du monde biblique, en dehors du christianisme, on peut être assuré que ben, les auteurs bibliques ont bel et bien été témoins de ces événements-là. Et comme ils ont été témoins, hein, des témoins directs, eh bien on peut hein, avec assurance, regarder au texte biblique et l'accepter comme tel. Alors bien sûr, il y a toujours des gens qui vont dire non, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que la Bible, encore une fois, parle de choses spirituelles, parle de choses miraculeuses. Hein, avec la mort et la résurrection de Jésus, hein, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais quand on prend cette correspondance qui existe entre l'histoire, l'archéologie et les textes bibliques, il faut noter que c'est un avantage majeur que seule la Bible possède. C'est-à-dire, on peut regarder à d'autres livres saints, sacrés, etc. Et ben, voilà, on peut mettre au défi. On peut mettre au défi d'avoir une telle cohérence entre les récits historiques, les événements historiques qui sont détaillés dedans, le message qui est apporté, l'impact que ça a eu. Il n'y a aucun texte religieux qui peut vraiment affirmer cela. De plus, l'archéologie a démontré que l'absence de preuves corroborant le récit biblique ne peut pas être retenue comme une preuve absolue, hein, parce que cette science, elle a prouvé, hein, par le fait de découverte, l'exactitude d'un bon nombre de faits historiques rapportés par la Bible. Puisque on a cette fiabilité, et on a déjà vu la fiabilité par rapport à la transmission du texte, la fiabilité historique également que nous trouvons dans la Bible, on a énormément hein, d'éléments qui, encore une fois, nous poussent en faveur de croire dans le message de la Bible. Donc si on a tous ces éléments-là qui sont vérifiables, eh bien on doit regarder au message qui est apporté et le prendre avec le plus grand sérieux déjà. Ne serait-ce que pour ceux qui ont besoin de connaître le Seigneur Jésus-Christ, mais pour nous, C'est des éléments aussi à apporter lorsque, dans notre témoignage, lorsqu'on présente l'évangile aux uns et aux autres, et de, hein, qu'on, si quelqu'un demande raison de notre foi, hein, que nous puissions non seulement répondre avec, avec douceur, mais de répondre avec des éléments qui sont vérifiés en termes d'historicité. Parce que je crois que, et c'est probablement une des choses qu'on va regarder bientôt aussi, c'est que la résurrection de Jésus-Christ, il n'y a aucun événement historique qui a eu autant d'impact que celui-là. Aucun. Et la manière dont, serait-ce qu'un petit pays comme Israël, et l'impact que ce pays a dans le monde, à travers les siècles et encore aujourd'hui, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas juste prendre à la légère et négliger. On a vu déjà beaucoup d'éléments historiques et archéologiques qui attestent de ce qui est annoncé dans les Écritures, mais de voir l'impact hein, que la résurrection a eu déjà parmi ceux qui ont connu Christ homme vivant, qui ont connu Christ mort, et qui l'ont vu vivant de nouveau. Et de comment ça a changé et transformé leur vie. Et bon, je ne vais pas trop m'avancer et tout dire ce soir. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir comment la Bible, quand on prend le temps de l'étudier et de regarder hein, à tout ce que le Seigneur nous a transmis pour notre foi, pour que nous puissions être fermes, pour que nous puissions répondre aussi hein, à ceux qui ont besoin d'entendre ces choses. Mais on a tout ce dont on a besoin. Et encore une fois, moi, je continue de remercier le Seigneur hein, pour toutes celles et ceux hein, que le Seigneur a donné hein, des talents particuliers en histoire, en archéologie, dans l'étude des langues anciennes. Et ces personnes qui font un travail extraordinaire et un travail monumental, monumental, hein, pour nous aider à mieux comprendre la parole et puis à nous aider aussi à nous à conforter dans notre foi. Des questions ou des commentaires par rapport à ce qu'on a pu voir ce soir? Alors, une des choses intéressantes, justement, que notre professeur d'archéologie, il avait fait toute une étude là-dessus, c'était sur les baptistères. Et dans toutes ces recherches et avec ce que les archéologues ont pu trouver, et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est que dans beaucoup, en fait, d'édifices religieux d'église où il y avait une sorte de baptistère comme on les retrouve dans l'église catholique, hein, où on asperge un peu les gens, ou bien on fait couler de l'eau sur la tête d'un bébé. En dessous, ils ont retrouvé des bassins. Pourquoi? Parce que la pratique initiale et celle qu'on voit dans les Écritures, c'est un baptême par immersion. Et là aussi, l'archéologie montre que bah, le baptême qu'on voit dans les Écritures, c'est bien un baptême par immersion, c'est pas hein, les autres formes que d'autres ont pu utiliser et remplacer. Mais des choses comme ça hein, qui nous aident et, dans notre foi. Voilà. Ok, bah, que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, hein, à dimanche pour ceux qui peuvent être là dimanche et sinon à mardi prochain.